Dobri den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Vous le savez si vous nous écoutez régulièrement le week-end, comme chaque samedi, deux grandes rubriques nous attendent dans la prochaine demi-heure. Nous évoquerons ainsi d'abord Karel Zeman, le visionnaire du grand écran et un réalisateur dont l'art et la fantaisie ont subjugué plusieurs générations de spectateurs et ce, jeunes comme moins jeunes. L'artiste fait aujourd'hui l'objet d'une importante monographie intitulée « Karel Zeman et son monde magique », comme nous le dira Václav Richter dans sa rubrique littéraire. Mais avant cela, place tout d'abord à la rubrique culturelle, une rubrique dans laquelle il est là aussi question de littérature, même s'il s'agit là d'un tout autre type de littérature, comme nous allons tout de suite le découvrir. Très bonne écoute. Rencontre aujourd'hui avec Lenka Horniakova-Sivad. Lenka Horniakova-Sivad, écrivaine et peintre tchèque installée dans le sud de la France, dont le premier roman, rédigé en français et intitulé « Giboulée de soleil » vient de paraître en France. Une histoire de filiation de mère en fille sur plusieurs générations, et ce dans la Tchécoslovaquie de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 1980. Lenka Horniakova-Sivad a évoqué donc ce premier roman « Giboulée de soleil » et a répondu aux questions d'Anna Kubishta.
Culture sans frontières.
Lenka Horniakova-Sivad, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes d'origine tchèque, mais vous vivez en France, vous êtes née en Moravie, on va un petit peu rappeler votre parcours. On s'était déjà rencontrés il y a quelques années, en 2013, si ma mémoire est bonne, puisque vous aviez publié avec une autre écrivaine, cette fois-ci française, qui vivait à Prague, Anne de la Flotte-Medevi, un livre de correspondance. Vous êtes aussi peintre.
Oui.
Et en fait, on se rencontre aujourd'hui pour votre premier opus littéraire et en français
exactement.
qui s'appelle « Giboulée de soleil » et qui est paru aux éditions Alma, Alma éditeur. Vous avez déjà testé un peu l'écriture avec ce livre de correspondance, mais cette fois-ci c'est vraiment un roman littéraire à proprement parler, on va dire. L'écriture, ça a toujours été un désir à accomplir pour vous ?
Je crois que l'écriture faisait partie de ma vie vraiment depuis assez petite. Mais au départ, sans ambition littéraire, c'était probablement un refuge ou un monde dans lequel on s'échappe d'un quotidien qui ne nous convient pas, ou enfin voilà, on s'invente des histoires qui nous plaisent, n'est-ce pas? Donc oui, l'écriture m'accompagne depuis toujours. Et par contre, l'écriture en français, évidemment, c'est une grande nouveauté. Ce n'est pas si évident que ça.
Mmh. On pourra revenir justement après sur ce changement de langue, hein, parce que c'est quand même important, c'est un grand pas. Dans ce roman, alors vous balayez, on va dire, un demi-siècle de l'histoire tchécoslovaque, hein, à travers l'histoire personnelle de trois femmes, donc c'est plusieurs générations de femmes qui succèdent, c'est-à-dire une mère qui a une fille, qui elle-même a une fille. Pour deux d'entre elles, si je me trompe pas, ce sont des bâtardes, on va dire. C'est comme ça que d'ailleurs que c'est présenté,
oui,
hein.
Oui.
C'est assumé, puisque elles sont de pères inconnus, ou alors on sait qui c'est, mais
le père n'est pas présent.
Le père n'est pas présent, ne les a pas ou reconnus ou connus tout simplement. Comment est née cette histoire de filiation?
Je crois que cette histoire de filiation m'a toujours attirée. Enfin, bon, la famille, tout le monde en a une. Et je crois que ce côté de père en fils, quelque chose d'assez entendu, m'a peut-être donné envie d'écrire de mère en fille. Et c'est vrai que le nom, c'est quelque chose d'important. Et le nom est donné de père en fils. C'était une des questions qu'on avait beaucoup débattues avec Anne, d'ailleurs, même dans les correspondances. Comment la femme est identifiée dans la société, et c'est soit par le nom de son père, par le nom de son mari, par le nom de son frère. Enfin bon, la femme n'a pas forcément son nom à elle. Et donc, dans ma lignée des bâtardes, elles ont le nom de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Je crois que cette idée m'a beaucoup plu. Mais il fallait qu'elle assume, en fait, cette filiation-là. Et donc, l'idée, c'est de ne pas avoir honte de ce qu'on est et de ne pas subir la pitié de ce qu'on est. Donc, c'était, je pense, une des grandes idées directrices de cette construction de mère en fille.
C'était important pour vous d'écrire sur la Tchécoslovaquie pour ce premier roman, parce que ça se passe en Tchécoslovaquie et c'est vraiment l'histoire récente et très douloureuse, hein, finalement, de ce pays.
Oui, et je pense que c'était important d'écrire sur la Tchécoslovaquie et probablement, ou certainement même, en français, parce que cette langue-là m'a donné la possibilité de dire ce qui restait indicible dans ma langue maternelle, je pense. C'était comme une nouvelle liberté d'utiliser le français, c'était comme le juste moyen, dans le sens bon moyen, de pouvoir dire justement la douleur, les atrocités, aussi l'amour, et peut-être aussi de le raconter en français, aux Français.
Mmh. C'est aussi une mise à distance, hein, pour.
Exactement. Mmh. En fait, exactement ce qu'on fait, que ce soit dans la peinture ou dans l'écriture, il faut trouver le bon moment, le bon ton et la bonne distance pour bien voir son modèle, pour bien le peindre. Si on est trop près, on ne voit pas. Si on est trop loin, on ne voit plus.
Quelles difficultés vous avez rencontrées ? Parce que j'imagine qu'il y en a eu quand même, hein, de passer à votre langue d'adoption finalement. Pour l'écriture.
Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai le livre est séparé en trois parties et chaque partie est racontée en jeu par une voix d'une femme différente.
On va d'ailleurs les citer, hein, ces trois femmes. Elles s'appellent Magdalena, Libouchet et Eva.
Exactement. Et chacune d'elles a son propre caractère, sa propre histoire. Et chacune donc raconte sa vie. Et à travers elle et son regard, on voit ce qui se passe autour, ce qui se passe avec les femmes précédentes et ce qui est dans l'actualité. On n'ose pas trop de faire les projections et rêver d'avenir, bien sûr. Et c'est la suivante qui nous compte la suite de la précédente et ainsi de suite. Et donc c'est ce jeu qui m'a à chaque fois permis de se placer et dans l'histoire et dans la vie de quelqu'un et utiliser la langue relativement simple pour dire des choses complexes. Parce que dans ce jeu, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de construction très compliquée. Elle narre vraiment ce qu'elle vive, mais avec une lucidité, on va dire, avec un bon sens appliqué. Et je crois que c'est, je crois que c'est ça la force, en fait, de ce langage et de ce livre.
Et puis, alors, on suit, évidemment, vous le dites, évidemment, l'actualité, en fait, l'actualité historique, hein, pour le coup. C'est vraiment en filigrane, c'est présent, sans trop l'être. Donc, on sait qu'il y a eu un putsch communiste, qu'on est après la guerre pour la première. Après, on sait qu'il y a 68 pour la seconde. Et la troisième, c'est la période de normalisation et le basculement qui se fait pas, en fait, mais qu'on, évidemment, qu'on suit. Suppose qu'il est imminent vers la démocratie et vers le retour de la démocratie. Donc en fait, elles vivent dans ce présent qui est le leur et qui est très difficile. C'est vraiment un juste équilibre. J'imagine que vous avez dû trouver un équilibre entre l'histoire personnelle de ces femmes et l'histoire, la grande histoire avec un grand H.
C'est ça. Moi, je voulais, je crois, démontrer que notre contexte nous influence beaucoup et que de vouloir jouer à l'autruche ne sert à rien parce qu'à un moment, la grande histoire, elle rentre dans votre cuisine et elle change votre vie. On a beau dire de ne pas s'intéresser à la politique, à ce qui se passe, etc. La grande histoire nous rattrape. On la vit tous les jours. Moi, je sais que quand on avait 18 ans et le mur est tombé, je ne pense pas qu'on réalisait à quel point, quelle grande histoire nous vivons. C'était juste merveilleux. Et elles ont des signaux qui leur arrivent ou des faits qui arrivent. Elles les pensent loin. Elles les remarquent parce que oui, ils sont présents par moments, même très présents, mais sans penser les conséquences. Et les conséquences, c'est peut-être la suivante qui les voit. Mmh. Parce que pour notre présent, on a besoin d'un recul que nous n'avons pas. Et donc, c'est toujours la génération suivante ou celle d'après, peut-être, qui a nos propres retours. Sur beaucoup de choses, ce n'est pas aux enfants qu'on raconte, c'est aux petits-enfants qu'on raconte. Et donc, la grande histoire a besoin le temps que nous n'avons pas dans notre quotidien. Et pourtant, il nous influence terriblement.
C'est intéressant d'ailleurs parce que la dernière, finalement, donc Eva, en fait, c'est un peu votre alter ego parce qu'elle est née, à mon avis, à peu près à la même période que vous. Hein,
un tout petit peu plus âgée, mais enfin, de 2 ans.
Grosso modo, c'est la même génération. Ouais. Donc, vous êtes peut-être plus identifiée à elle ou...
Ma vie, si elle y est, elle y est évidemment, elle est distillée bien dans les 3 ou, ou 4, voire 4, héroïnes. Mais je ne peux pas sincèrement m'identifier avec un des personnages. Vraiment, je ne rentre pas dans la peau d'aucune.
Mais elles vivent leur vie aussi.
Vivent leur vie, mais je suis dans toutes, bien sûr. Bon, évidemment, quand distille nos propres vécus et nos propres expériences ou ce qu'on a entendu, on vampirise un peu nos propres passés et les histoires qui nous sont proches. Et puis le reste, ça imbrique, le puzzle se construit. Mais oui, je pense que nous portons aussi l'expérience de nos générations précédentes sans le savoir forcément, sans le chercher, et que chaque génération prépare la suivante. Et il y a beaucoup de non-dits dans le livre, parce qu'on les pense protecteurs, ces non-dits, et ils ne le sont pas forcément. Non-dit peut causer beaucoup plus de dégâts qu'on ne croit. Et c'est peut-être la dernière qui va avoir les clés de tout un tas d'histoires. Et peut-être que ce savoir-là va lui permettre, on ne sait pas.
Oui, c'est une porte ouverte à la fin. On sait qu'elle va vers un autre avenir.
Voilà, on peut espérer pour elle. C'est peut-être ça, ce rayon de soleil qui arrive. Mais parce qu'elle est une des dernières... Enfin, de ces 4, c'est celle qui, a priori, c'est le plus.
C'est intéressant, vous parliez tout à l'heure de peinture, vous compariez un peu littérature et peinture. On pourrait faire une autre comparaison d'ailleurs qui est assez un peu en filigrane aussi de ce livre, hein, parce que toutes savent broder. C'est les broderies moraves, traditionnelles, elles ont un savoir-faire, on va dire ancestral. Et finalement, vous avez un peu tissé cette histoire comme elles font leur broderie.
Oui, c'était ouais, très bien. Merci de l'avoir remarqué. C'est vrai que c'est une histoire un peu brodée et j'aimais beaucoup le fil qui traverse le tissu, qui raconte l'histoire. Et d'ailleurs, les Bouchets est peut-être le plus marqué par la broderie parce qu'elle dit elle-même « j'ai su manier le fil ». Et ma mémoire, je l'enfile sur ce fil. Ce que je veux oublier ou ce que je veux me rappeler, je le cache dans mes broderies. Et il n'y a que moi qui peux le lire. C'est ces petites failles qui sont donc inscrites sur le tissu. Et même à un moment, on saute dans les pensées de Les Bouchets. Comment on peut prendre un fil, on compte une petite histoire, hop, on prend un autre fil et on est dans un autre moment de sa vie. Donc oui, l'aiguille et le fil... de couleur, bon là en l'occurrence rouge, était effectivement quelque chose qui m'a beaucoup guidée dans l'écriture. Ouais.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez aussi écrit ce roman en français pour les Français. Bon, il vient de paraître, hein, ça fait pas longtemps. Est-ce que vous avez eu un peu des retours justement côté français pour des gens par exemple qui ne connaissent pas forcément l'histoire de la Tchécoslovaquie mais qui vous connaissent vous ou alors des gens carrément qui ont totalement découvert et vous et le roman, est-ce que vous avez déjà eu des retours?
Mes amis m'ont beaucoup encouragée, je dois dire, et j'ai eu des retours très positifs de mon entourage proche. Donc ça ne compte pas parce qu'ils m'aiment, voilà, tout simplement.
C'est pas objectif.
C'est pas objectif, non. Je les remercie énormément parce qu'évidemment, le soutien était très, très important. Et j'ai eu des retours très sympathiques et chaleureux de certains libraires. Donc j'espère qu'ils vont... Et je crois qu'ils vont donc soutenir le livre et en parler à leurs lecteurs. Et certains lecteurs qui m'ont écrit. Donc ça, c'est des retours qui sont vraiment... Ça me fait très, très chaud au cœur. Pour moi, en tant qu'écrivain, mais je me sens un peu maternée. Mes filles, mes femmes, je suis très contente qu'elles aient trouvé les oreilles attentives. Voilà, qu'elles ont pu conter leur histoire et puis qu'elles ont trouvé un écho... auprès des lecteurs.
Ouais. C'est peut-être prématuré de vous demander ça pour finir. Est-ce que vous envisagez un autre roman en français, en tchèque? Quelle langue? Allez.
Alors, je vais continuer à travailler dans les deux langues, ça c'est sûr. Je ne saurais plus choisir. Et oui, les projets, il y en a, mais j'aime tellement pas dévoiler les projets.
Ah non, je ne vous demande pas de dévoiler, mais si, en effet, il y a quelque chose en gestation, voilà.
Ah oui, alors là, en gestation, oui.
Comme on dit en tchèque, máme se na co se těšit.
Máme se na co těšit, exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était donc Lenka Horniakova-Sivad, écrivaine tchèque installée en France, dont le premier roman, rédigé en français, c'est à noter, Giboulée de soleil, vient d'être publié. Lenka Horniakova-Sivad répondait aux questions d'Anna Kubishta. On reste dans le domaine de la littérature avec cette fois la monographie du visionnaire du grand écran qu'a été Karel Zeman. La rubrique littéraire a bien entendu été préparée comme chaque semaine par l'inimitable Václav Richter.
Rencontre littéraire. Plusieurs générations de spectateurs ont été subjugués par l'art et la fantaisie du réalisateur de cinéma Karel Zeman. L'artiste qui a donné au cinéma de nouveaux moyens d'expression fait l'objet d'une importante monographie sortie récemment aux éditions Cepress sous le titre « Karel Zeman, Ajeho kouzelný svět, Karel Zeman et son monde magique ». La création de ce livre évoquant l'itinéraire brillant de Karel Zeman est une affaire de famille, conçue et réalisée par sa fille Ludmila Zemanova et sa petite-fille Linda Zeman-Spalena. La monographie réunit d'innombrables photos et documents écrits sur la vie et le film de ce magicien du grand écran. Ce riche matériel iconographique est accompagné par les textes et notes explicatives de sa fille, qui a été pendant un certain temps sa proche collaboratrice. Pour Ludmila Zemanova, réunir tous ces documents dans un livre n'a pas été une tâche facile.
C'était un énorme travail. Nous n'avons achevé ce livre qu'au bout de 2 ans. Je suis infiniment reconnaissante à ma fille d'avoir supporté tout cela avec moi et d'avoir donné la forme définitive à ce livre. Nous avons préparé tous ces documents pour l'ordinateur. Ce n'était pas facile. Aucun livre d'une telle ampleur sur mon père n'avait jamais été créé auparavant. Le lecteur y trouve une filmographie absolument complète et aussi tout ce qui était exceptionnel et le plus important dans ses films.
C'est la commune d'Ostroměř, non loin de la ville de Jičín en Bohême du Nord, qui est la patrie de Karel Zeman. Il est né dans ce petit bourg en 1910 et son enfance ce n'est pas heureuse. Orphelin de père, il vit avec sa mère et puis avec son beau-père et connaît la pauvreté. Petit, il monte déjà des spectacles de marionnettes pour son frère cadet. Bien que doué pour les arts, il étudie dans une école de commerce et se lance dans la publicité commerciale. À 18 ans déjà, il part pour la France pour parachever ses études dans une école française et travaille ensuite jusqu'en 1936 dans un studio de publicité de Marseille. Revenu en Tchécoslovaquie pour faire son service militaire, il réalise ses premiers films dans les studios de la ville de Zlín. Dans son premier court-métrage intitulé « Rêve de Noël », il ose déjà combiner la technique du film de marionnette avec celle du film classique et c'est une réussite. Le succès véritable ne vient cependant qu'avec la série de courts-métrages dont le héros, Monsieur Prokouk, est une image humoristique et caricaturale du citoyen ordinaire qui cherche à se débrouiller dans les situations difficiles de la vie de tous les jours. C'est la figurine de Monsieur Prokouk qui fait connaître Karel Zeman dans son pays et à l'étranger. Ludmila Zemanova explique les particularités du style de son père.
tím, že jsem ještě pracovala na té knize o tátovi, tak najednou jsem si uvědomila.
En travaillant sur le livre de mon père, je me suis rendu compte avec quelle précision et profondeur il avait réalisé ses films. Au départ, il y avait toujours une excellente idée originale et le scénario était toujours parfait sur le plan littéraire. Mon père voulait également que ces films donnent aux spectateurs quelque chose sur le plan plastique et artistique. Il voulait l'instruire. Il s'inspirait chez les grands de la littérature mondiale, chez Jules Verne par exemple, et il s'y prenait tellement bien qu'il réussissait à montrer les plus beaux aspects de ses auteurs et de leurs œuvres. Il s'inspirait aussi de divers courants artistiques, dont l'impressionnisme. Dans ce livre, je cherche donc à mettre en relief tous ces aspects que je trouve merveilleux. Mon père voulait apporter un enrichissement dans la vie du spectateur, et c'est aussi la cause de la pérennité de ses films.
La première œuvre de Karel Zeman, inspirée déjà en partie par Jules Verne, est Le voyage dans la préhistoire, l'histoire de quatre jeunes garçons qui découvrent 38 ans avant Jurassic Park de Steven Spielberg l'univers fascinant des prédateurs monstrués et de la flore antédiluvienne. Ludmila Zemanová ajoute encore un détail sur les inspirations de son père.
Je pense que c'est un autre trait génial de mon père. Il trouvait par exemple des sujets dont personne ne se doutait qu'ils pourraient servir pour des films. À l'époque, on ne savait que peu de choses sur les animaux préhistoriques. Nous avions quand même un avantage, nous les Tchèques, d'avoir un excellent peintre, Zdeněk Burian, qui évoquait magistralement la faune préhistorique dans ses tableaux. À part cela, la préhistoire était un monde quasi inconnu.
C'est l'adaptation pour l'écran du roman « Face au drapeau » de Jules Verne qui, sous le titre « Vinales Casi, l'invention diabolique », apportera à Karel Zeman la célébrité dans le monde et toute une série de prix internationaux. En animant dans le film les illustrations originales des voyages extraordinaires de Jules Verne, il revient aux impressions inoubliables des lectures de son enfance et les fait partager au public international. Encouragé par ce succès, il utilisera ce procédé aussi dans ses films suivants, dont « Sur la comète »,« Le dirigeable volé » ou « Le baron de Krak ». Son inventivité est prodigieuse. On peut dire que pour tous les films qu'il réalise, il invente et met au point des moyens d'expression appropriés et des effets spéciaux souvent inédits. Il attirera dans les studios de Zeline aussi sa fille Ludmila.
Depuis ma plus tendre enfance, je jouais avec des marionnettes des films de mon père. C'était mes jouets à l'époque où les jouets véritables étaient encore rares. Comme nous habitions tout près des studios, j'y allais avec plaisir. Je regardais comment on confectionnait les marionnettes. C'était pour moi un monde de contes de fées. Je me rendais aussi dans la salle de projection pour regarder des films que je ne pouvais pas voir au cinéma. Ainsi, j'ai pu voir, entre autres, Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney et j'ai été fascinée. Je pense que j'ai eu une belle enfance.
Aujourd'hui, Ludmila Zemanová peut se retourner avec fierté sur sa propre œuvre. Établie au Canada depuis 1984, elle est peintre, écrivaine et cinéaste. Ses livres, dont la trilogie L'épopée de Gilgamesh, ont obtenu de nombreuses distinctions internationales et son film Lord of the Sky a été nominé aux Oscars. Elle se rend compte qu'elle doit ses succès en partie aussi à l'apprentissage du métier de cinéaste dans le studio de son père.
Nebylo to jednoduché pro mě teda, protože po umělecké škole.
Ce n'était pas facile. Après des études dans une école d'art que j'ai terminée avec succès, je voulais peindre et devenir artiste. Mais mon père a dit « Non, tu vas travailler dans mon studio. Tu vas apprendre tout depuis le début parce que le cinéma est un métier. » Alors il m'a amené devant un tour et m'a dit de fabriquer, de tourner la tête d'une marionnette en bois. J'ai été d'abord effrayée, mais j'ai fini par dominer ma peur. Par la suite, j'ai peint des décors de fond, j'ai découvert la technique du montage. Je n'ai réalisé que plus tard combien cet apprentissage de chaque étape du processus de création était important pour pouvoir faire des films.
Aujourd'hui, Karel Zeman a un musée dans le quartier de Malostranská à Prague. Récemment, son film « L'invention diabolique » a été numériquement restauré. Et grâce à sa fille et sa petite-fille, sa vie et son œuvre font l'objet d'une monographie représentative. Il constitue à lui seul un important chapitre de l'histoire du cinéma. À l'époque où les cinéastes disposent de techniques ultra-sophistiquées pour réaliser toute leur fantaisie, il n'en finit pas de leur rappeler par ses œuvres que les films basés sur les effets spéciaux ne devrait pas manquer d'une qualité très importante, la poésie.
C'est ainsi que s'achève pour ce samedi le programme en langue française préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes de Radio Prague. Bon week-end, ahoy.